Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Pour les passionnés du 7e art, c'est l'un des films les plus marquants du cinéma québécois. Profondément réaliste, tragique, porté par des acteurs de grand talent. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les bons débarras.
Bon, enfin, le film tourne autour de la relation mère-fille, une petite fille qui est amoureuse folle de sa mère et qui veut la regagner parce que sa mère est trop prise dans une espèce de survie. Elle lutte pour vivre tellement qu'elle en délaisse un peu sa fille. Alors, il y a des rapports entre la mère et la fille, des rapports de grande passion et de grand amour, mais aussi de haine.
Les propos de l'actrice Marie Thiefault, qui interprète le rôle de la mère Michelle dans ce film signé Francis Mankiewicz. À la base, c'est une histoire relativement simple, celle de Manon, 13 ans, qui vit dans une maison isolée à la campagne avec sa mère célibataire. L'adolescente est brillante, précoce et possessive, obsédée par l'amour de sa mère et prête à tout pour l'obtenir. Mais Les bons débarras, c'est aussi un drame social, le quotidien laborieux de ceux qui cherchent à s'en sortir, un film d'une grande sensibilité, porté par les dialogues de Régent Ducharme.
Dis que tu roules tranquillement. Le chauffage a l'air froid. Ça se peut-tu? T'es pas tanné de rouler en barouette comme vieille canisse. Je connais une fille que sa mère a accroché à un gars riche qui a acheté une cobra pour sa fête.
Qu'est-ce que tu me chantes, là?
Il y a une fille dans ma classe, sa mère a accroché à un gars qui en a de collier puis qui a offert un beau chasse-port pour le récompenser. T'aimerais pas ça, toi? Un beau chasse-port. T'es belle. Tu pourrais en accrocher un gars qui en a de colis. Puis tu pourrais lui en demander un beau chasse-port. On sortirait ensemble, les deux. On ferait nos fraîches. On passerait à 100 000 à l'heure. Puis on aurait un accident. En gros, on perdrait beaucoup de sang. Ton sang se mélangerait avec le mien dans l'asphalte. Puis pousserait une fleur dans l'asphalte. Pas arrachable, pas cassable, pas écrapoutissable. T'aimerais pas ça, toi?
Un extrait du film Les bons débarras, réalisation Francis Mankiewicz, scénario Régent Ducharme. Pour nous en parler, mon invité, Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma à Radio-Canada. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ah, je vous le dis en toute transparence, c'est certainement un de mes films préférés.
Mais, je comprends.
Mais pour vous, pourquoi ça vaut la peine d'en parler de ce film-là?
Ça vaut la peine parce que c'est un film de 1980, mais qui continue à être d'une pertinence et d'une profondeur inégalé, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui. Ça a beau être un film qui est ancré dans le temps, évidemment, il continue même 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard à nous dire des choses extrêmement profondes sur l'être humain, sur les relations passionnelles, évidemment, mère-fille, mais aussi sur les conditions sociales, c'est-à-dire sur une forme de lutte des classes. Parce que oui, cette famille vit dans des conditions assez terribles. On vivote de ventes de bois de chauffage. Mais il y a aussi un autre personnage qui est une femme beaucoup plus riche, interprétée par Louise Marleau, qui va, d'une certaine façon, symboliser un accès à la richesse duquel sont privés pas mal de gens. Et on est après la Révolution tranquille. Et ce que montre ce film-là, c'est aussi que le progrès, la modernité, ça n'a pas été donné à tout le monde au Québec.
Oui, il y a une partie qui a été laissée derrière, mise de côté. Alors, c'est quoi Les bons débarras? C'est quoi ce film-là?
Alors, ce film, c'est effectivement un film réalisé par Francis Mankiewicz en 1980, situé dans les Laurentides. L'histoire de cette petite fille de 12-13 ans, amoureuse folle de sa mère qui est monoparentale, là aussi. On est dans un regard sur l'après-première vague du féminisme. On montre une femme en quête d'émancipation, d'indépendance, mais qui va se retrouver à nouveau prise dans les affres d'un couple, un couple très particulier puisque c'est celui qui veut former sa fille avec elle, au point de dénoncer fallacieusement des hommes qui s'approcheraient trop près d'elle, au point de faire des fugues dès que la situation ne lui convient plus. Bref, c'est l'histoire d'un amour dévorant, tout simplement, et d'un amour assez unique parce que, en général, le cinéma, quand il parle des relations mère-fille, c'est plus de l'ordre de la transmission, de l'héritage ou de choses plus tendres, plus sympathiques. Là, la réunion de tous les talents qui ont fait ce film-là va plutôt creuser du côté d'une relation complètement inusitée.
Oui. Avec cette femme, Marie Tifot, Michel, donc, vous l'avez dit, qui tente de s'émanciper, qui le fait, oui. Que des amants, qui est célibataire,
absolument.
Monoparental, mais qui est prise justement par sa fille, puis aussi elle doit s'occuper de son frère. Là.
Absolument, le frère qui est considéré un peu comme l'idiot du village.
Oui.
Et que Manon va aussi écarter de son chemin parce qu'elle va finir par trouver qu'il prend trop de place dans la relation qu'elle veut exclusive avec sa mère.
Tout à fait. Un film porté par des très, très grands acteurs, mais qui étaient pratiquement des inconnus à l'époque.
Alors, c'est complètement fou parce que Les Bons Débarras, ça a été un succès quasi immédiat et ça tient presque du miracle. Les trois acteurs principaux sont des débutants ou presque. Alors, dans le rôle de cet oncle, on a Germain Wood, qui sort du conservatoire en 76, donc 4 ans avant de tourner Les Bons Débarras. Avant ça, il a tourné dans Mourir à tue-tête d'Anne-Claire Poirier, mais le rôle du violeur, qui n'était pas un rôle, disons, très, très facile. Mais dans Les Bons Débarras, c'est vraiment son premier grand rôle, j'ai envie de dire. Pareil pour Marie Tifot, qui est une actrice de théâtre en 1980. On la connaît surtout sur les planches. Elle n'a jamais joué au cinéma avant Les Bons Débarras. Et puis, bien sûr, Charlotte Laurier. Incroyable Charlotte Laurier.
Pour son âge, en plus.
Qui est toute petite, on l'entendait dans l'extrait. Elle a une maîtrise absolument folle de la diction, du rythme, de la présence. Et pourtant, elle était complètement débutante. Elle a été choisie parmi 200 petites filles lors d'un casting. Elle prenait des cours d'expression corporelle, mais comme n'importe quel enfant, sans nécessairement vouloir faire carrière. Et c'est vraiment l'éclosion d'un talent complètement unique qui ne se poursuivra pas par la suite. Parce que Charlotte Laurier va décider de plutôt se retirer, être derrière la caméra, écrire, réaliser, scénariser, etc. Mais reste que c'est une interprétation absolument exceptionnelle.
Tout à fait. Puis c'est un film qui n'a pas coûté très cher à
l'époque. Non, c'est étonnant. C'est un budget de 632 000 $. Alors, bon, ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas pour tourner un film. Et même à l'époque, c'est un tout petit budget. Ça a été tourné en 2 mois à Saint-Hippolyte. Et le film, effectivement, avec des acteurs inconnus, un petit budget, tourné dans un coin de pays un peu reculé, va devenir un des plus grands classiques de notre cinéma.
On va écouter le réalisateur nous en parler. Francis Mankiewicz, c'était à notre télé en février 1981.
Et les personnages sont comme plus grands qu'eux-mêmes. Oui. Ils sont extrêmes, chacun dans sa vérité.
Ça, c'est Régent Ducharme. C'est l'auteur, finalement, qui est derrière. Ce n'est pas un scénariste, c'est un auteur. Et c'est un auteur avec une vision du monde qui est tout à fait unique et tout à fait particulière, qui voit les personnages dans le sens le plus large du terme, qui voit la vie avec des dimensions tout à fait particulières, puis c'est ce qui fait que le film n'est pas ordinaire.
Le film l'est extraordinaire, en partie, en grande partie, même à cause de ce personnage de l'enfant, ce personnage de Manon, qui a une dimension monstrueuse, suprahumaine presque, philosophique même.
Oui, je pense que c'est ça. Je pense que Manon, c'est une métaphore. Tous les personnages dans ce film sont un peu une métaphore. Ce ne sont pas... Manon est une enfant, elle a le corps d'un enfant, mais en fait, elle représente quelque chose, je pense, qui existe en nous tous. C'est-à-dire, c'est le personnage en révolte. Et on a tous en nous, quelque part, de la révolte. On se révolte contre le fait, notre impuissance à changer le cours des choses. On a tous en nous un certain idéalisme et qu'on met de côté petit à petit à mesure qu'on vieillit.
Voilà, le rôle de Manon, on l'a dit, porté par les frêles épaules de Charlotte Laurier. C'est un film aussi, c'est la rencontre de trois grands artistes, la rencontre unique de trois grands talents à la réalisation, au scénario, on a entendu Régent Ducharme et à la direction photo. Commençons peut-être par le réalisateur qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est qui, Francis Mankiewicz?
Mankiewicz, en fait, c'est une carrière assez brève, malheureusement, parce qu'il est mort assez jeune. Il va faire quelques films marquants, mais le plus marquant reste Les Bons Débarras. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il commence par être géologue. Donc, il fait des études, il devient géologue, mais il est passionné par le cinéma. Il décide de tout lâcher pour aller étudier à Londres. et pour aller étudier le cinéma, revient au Québec et fait Le Temps d'une chasse, son premier film en 1977, qui immédiatement l'amène au Festival de Venise.
Donc, il y a du talent. Précoce, ouais.
Effectivement, il y a du talent dès le début. Après ça, il va faire un court-métrage, il va faire un autre film adapté d'une pièce de théâtre de Louis Saïa qui n'auront pas tout à fait le même retentissement. Mais en 1980, il arrive avec Les bons débarras. Alors, pour l'anecdote, c'est un lointain cousin de Joseph Mankiewicz, le grand réalisateur hollywoodien, celui qui avait fait Cléopâtre, La Comtesse aux pieds nus, le Bat Eve. Et quand Mankiewicz, hollywoodien, va voir Les bons débarras, il va dire « Maintenant, tu es mon neveu. » Donc, tu n'es plus un lointain cousin. Tu
très
es
proche.
Voilà, il se rapproche. Mais Mankiewicz, malheureusement, son talent n'aura pas le temps d'éclore plus largement que ça parce qu'il va mourir en 1993, à l'âge de 49 ans, ce qui est quand même très jeune.
Ben oui, tout à fait. On a entendu Régent Ducharme.
Oui.
Bon, tout le monde connaît Régent Ducharme, bien sûr. L'auteur, mais comment il débarque dans Les bons débarras? Comment il apparaît là-dedans?
C'est assez étonnant. Là encore, il y a quelque chose de presque magique dans la petite histoire, parce que Régent Ducharme, bon, évidemment, auteur reclus, personne ne le connaît. Mm-hmm. Bon, il se passionne pour la littérature, il écrit des chefs-d'œuvre. Il commence aussi à se diversifier un peu. Il va écrire quelques chansons pour Robert Charlebois, notamment.
Oui.
Et il va au cinéma voir Le Temps d'une chasse, donc le premier film de Mankiewicz. Il a dans ses tiroirs un scénario, qui est celui des Bons débarras, et il trouve Le Temps d'une chasse tellement formidable qu'il décide d'envoyer par la poste son scénario à ce jeune réalisateur. Et ils vont communiquer par lettre pendant à peu près 6 mois, comme ça, autour de ce scénario. Ils vont finir par se rencontrer, une amitié va naître, mais Régent Ducharme ne va jamais aller sur le plateau de tournage, par exemple. Il va toujours rester en retrait. Mais c'est vraiment un scénario qu'il a écrit de façon spontanée et qu'il a décidé de donner à Mankiewicz après avoir vu son premier film.
Oui, donc une première expérience au cinéma, Régent Ducharme, donc au dialogue. C'est très écrit, puis c'est très parlé en même temps. C'est très réaliste, ce film-là, le scénario. On va
Absolument.
Écouter un extrait encore une fois. C'est quand justement la jeune Manon invente une histoire d'attouchement. Quand on dit qu'elle est prête à tout pour avoir l'amour exclusif de sa mère, ben là, ouais, c'en est un exemple. On l'écoute.
Qu'est-ce que t'as? Parle, dis-moi ce que je t'ai fait. Pourquoi tu m'en veux, petit sans-cœur? Parce que tu m'as pas assez fait de peine au téléphone? Parce que j'avais l'air de pas avoir assez souffert quand t'es revenu de l'école? Dis-le donc, qu'est-ce que t'as?
Rien.
Tu vas me le sortir, tu vas me le dire. Est-ce que toi, tu vas me le sortir ou bien je vais te le sortir de force? Qu'est-ce que t'as?
Je peux pas te le dire.
Mais parle!
Viens, Marcel, c'est la pente! Regarde!
C'est le gros Maurice.
Quoi, Maurice?
Il m'a touchée.
Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand, ça?
Cet après-midi, dans son auto.
Tiens, maman, oui, il t'a touchée. Tu peux pas... C'est pas vrai, je sens que je viens fois le dire à maman que c'est pas vrai.
C'est vrai, maman, je te jure.
Voilà, un extrait important, c'est quand, justement, elle invente cette histoire et toujours cette quête d'amour absolu, amour exclusif de sa mère. Un mot sur la caméra aussi, de Michel Brault. C'est un film qui est très réaliste, très, très nordique. Ça sent l'automne, ça sent les Laurentides.
Absolument.
Pour moi qui connais bien la région, là.
Ah, vraiment.
On y est.
Vraiment, mais en même temps, on n'est pas du tout dans le cliché, carte postale,
non,
belles couleurs
de
l'automne.
C'est les Laurentides du quotidien, de ceux qui vivent, qui y travaillent.
Oui, c'est la nature dans ce qu'elle a de sauvage, presque de cruel, ce qui est tout à fait en miroir avec le personnage de Manon, parce que c'est à la fois très séduisant, c'est très beau et très dur. Et elle est comme ça, Manon. Elle est, on l'entendait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle a quelque chose de très manipulateur et en même temps de séducteur.
Mm-hmm.
Et la nature est filmée comme ça. Et effectivement, c'est Michel Brault, le troisième homme de ce film, le troisième homme très important. Alors Michel Brault, c'est le père fondateur du cinéma direct, grand documentariste, évidemment, co-réalisateur de Pour la suite du monde. Mais en 1980, il a aussi déjà réalisé Les Ordres, qui est un des plus grands films du cinéma québécois.
Ben
il a été le directeur photo de Mon oncle Antoine, de Kamouraska, du premier film de Mankiewicz, Le Temps d'une chasse. C'est assez étonnant ce film-là parce que non seulement les acteurs sont inconnus, mais en plus on a la réunion de trois hommes qui a priori ne relevait pas d'univers créatif semblable. Hein, donc d'un côté Mankiewicz avec une mise en scène très sobre, très rigoureuse, régent du charme avec cette langue faite de néologismes, de poésie, ces personnages extrêmement complexes, voire contradictoires,
oui.
Et cette photographie de Michel Brault qui est très précise, très chirurgicale presque, qui monte cet automne très rigoureux. L'association de ces trois talents-là, plus évidemment ceux des acteurs, donne un résultat parfaitement unique.
Dans un décor, puis un contexte aussi historique, hein, celui ben oui, de 1980, ça se voit, ça s'entend. Puis en même temps, c'est comme un entre-deux. On a l'impression que c'est entre le documentaire québécois des années 70, celui du cinéma réaliste, justement, de Michel Brault, et le cinéma, la fiction du début des années 80. Comment vous le situez, justement, dans le contexte du cinéma québécois?
C'est vraiment un film étonnant. C'est comme s'il venait marquer un coup d'envoi pour une nouvelle décennie, celle des années 80, en étant parfaitement différent de ce qui va se passer. Parce que les années 80, c'est les grandes comédies un petit peu plus populaires, un cinéma à vocation, disons, plus divertissant.
Oui, plus commercial.
Exactement. Que n'est pas les bons débarras. Mais on sent qu'il vient clore une décennie de cinéma, celle des années 70, en reprenant évidemment certains des éléments les plus forts, le réalisme, les personnages beaucoup plus complexes, voire contradictoires, et qui nous emmène vers un autre cinéma. C'est aussi un film qui est venu réveiller un peu la fin des années 70, parce que, disons, de 1970 à 75, le cinéma québécois connaît de très grands succès. C'est les premiers films de Forcier, de Denis Arcand, Gilles Carle, Les Ordres, Mon oncle Antoine, fait des chefs-d'œuvre à l'appel.
Oui, oui.
Mais entre 75 et 80, on n'est plus tout à fait dans la même abondance. On a quelques films évidemment importants, mais bon, J.A. Martin photographe, L'eau chaude, l'eau frette, mais reste que c'est 5 années où il ne se passe pas grand-chose. Et ce film-là, Les bons débarras, vient vraiment redonner une impulsion au cinéma québécois, mais encore une fois en étant complètement différent de ce qui s'est fait et avant et de ce qui va se faire après. Ça me fait un peu penser à Léolo, c'est-à-dire ce genre de film inclassable, mais qui viennent donner un coup de fouet aux artisans du cinéma québécois.
Oui. Comment il a été reçu, le film, à l'époque? Par le public, d'abord?
Par le public, très bien. Très bien. Ouais, et le public et les critiques ont été assez ravis par la proposition faite par Mankiewicz. Le film va remporter 8 prix Génie, va se retrouver assez rapidement sur les listes de meilleurs films de l'année, puis de meilleurs films de tous les temps. À l'international, par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps à se développer, peut-être parce que ça reste un film profondément québécois, fait par des gens d'ici, pour des gens d'ici, j'ai envie de dire. Y a un critique américain, ça m'a fait rire quand j'ai retrouvé cette archive, Dave Kerr à Chicago, qui va dire de Mankiewicz qu'il ne maîtrise pas suffisamment son outil pour que ça débouche sur une œuvre cohérente.
Ah oui?
Je pense que l'histoire lui a donné tort.
Oui, visiblement. On va écouter ce qu'en disaient en tout cas les cinéphiles, le public à l'époque, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, 30 mars 1980 à notre télé.
Qu'est-ce qui vous a incité à venir voir le film Les bons débarras?
D'abord, je m'intéresse beaucoup au cinéma québécois. Et ensuite, j'ai déjà vu le premier film de Mankiewicz, Le temps d'une chasse, que j'avais beaucoup aimé. Puis, c'est bon, ça me tente.
Je voudrais juste vous demander votre opinion sur le film que vous venez de voir.
Ça m'a bouleversé, c'est...
Pour quelle raison?
C'est de voir les difficultés des relations entre la mère puis la fille qui ne parviennent jamais à se comprendre puis qui se blessent les unes les autres.
Moi, je trouve le rôle de la jeune fille, là, je me posais beaucoup de questions face à son rôle. Je sais pas, j'ai fait des liaisons aussi là, avec peut-être l'année internationale de l'enfant. Puis je voyais que le film était tout concentré sur la fille, la jeune enfant.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, disons, j'ai été assez émue, j'ai pleuré. Parfois, là, en regardant ça, je trouvais que c'était un niveau émotif assez élevé. Tu sais, la relation entre la mère et la fille, c'était beau à voir.
On y revient toujours à la relation, mais la performance aussi de Charlotte Laurier. Vous dites, bon, c'est un film qui a eu du succès dans les festivals, donc, mais ça a mis un peu de temps.
Oui, le Festival de Berlin, en fait, l'a accueilli en compétition dès sa sortie, donc au mois de février. Là, ça a été remarqué, mais ça n'a pas gagné de prix. Mm-hmm. Ceci dit, lors des sorties, parce qu'on a essayé de le sortir en France, ça a pris 6 ans quand même à ce que le film puisse être montré en France. Aux États-Unis, ça n'a pas tout à fait non plus eu l'impact peut-être qu'on souhaitait. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de trop complexe dans ce film-là pour un public américain qui était peut-être plus habitué à des relations plus manichéenne, j'ai envie de dire, avec des bons, des méchants clairement identifiés, alors que là, on n'est pas du tout dans cet ordre d'idées-là. On est avec des personnages profondément humains, c'est-à-dire des personnages qui peuvent être d'une gentillesse extraordinaire à un moment et la seconde d'après d'une cruauté terrible. Et c'est aussi ce qui, je crois, fait que Les Bons Débarras continue à être un film si puissant aujourd'hui. On l'entendait dans le Vox Pop, ce qui est souligné par les gens, c'est la profondeur de cette relation mère-fille ou la complexité, la bizarrerie. Et ça, c'est des choses qui sont atemporelles, qui continuent à nous parler de façon aussi frappante aujourd'hui.
Bon, on va écouter justement comment réagissaient les deux principales interprètes, Marie Tifo et Charlotte Laurier, de retour de Berlin. C'était à notre télé le 26 février 1980.
C'est quand même important. Charlotte Laurier revient de Berlin. On sait qu'à Berlin, c'est le festival critique le plus important, le festival international de films. Et Les Bons Débarras, c'était l'entrée officielle du Canada. Est-ce que vous avez été reçue comme une grande vedette là-bas?
Non, j'étais très bien reçue. Puis le monde a beaucoup aimé le film. Il a été très bien accueilli.
Ça veut dire quoi, ça, bien accueilli? Vous étiez là avec Francis Mankiewicz. On a toujours un peu peur que nos films très québécois soient pas compris ailleurs. Et que si on pense à un auteur comme Régent Ducharme, qui a beau être connu internationalement...
Le film était sous-titré en allemand. Alors, il n'y avait vraiment pas de problème à ce point de vue-là. Et puis, il faut dire qu'après la sortie du film, les gens ont été très, très émus. Et puis, Charlotte était considérée comme une petite star. Ils l'appelaient Darling. Le lendemain, dans les journaux, ça a été vraiment très, très apprécié. Puis, on en a beaucoup parlé. Puis, on a même dit, puis il faut en parler de ça, que c'était le film, en tout cas pour la première semaine du festival, le plus intéressant.
Oui, intéressant parce que vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, puis là aussi, c'est la journaliste qui le dit. On a l'impression que c'est un film trop québécois. Puis ça revient souvent dans les archives, j'écoutais. Il y a cette espèce d'idée que, c'est notre cinéma québécois, on ne sera pas compris, puis on sent un peu un petit complexe d'infériorité. Oh, ils nous aiment à l'étranger, c'est très québécois, ça aussi. Là.
C'est vrai, mais je pense que c'est quelque chose qui a changé aussi au cours des décennies.
Oui, ça marque une époque aussi.
Voilà,
là.
C'est ça. Notre cinéma, maintenant, vit à l'international de façon beaucoup plus spontanée. On a des films à Berlin, à Cannes ou à Venise chaque année, sans qu'on se pose cette question-là.
Oui.
Mais le cinéma des années 70-80 au Québec, on parle de 10 à 15 films par année. Donc forcément, ceux qui vont à l'étranger, j'imagine, il y avait une espèce de crainte de comment ça va être perçu, comment on va être reçu, ils ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas notre cinéma.
Oui.
Donc effectivement, il y a encore presque cette gêne de montrer nos films dans ces années-là à un public étranger, alors que Les Bons Débarras, clairement, à une sensibilité, à une profondeur, à une richesse qui avait tout pour plaire à un public, notamment européen.
Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est universel. Mais c'est vrai que ça demeure, oui, profondément québécois dans le ton, dans le décor, dans le contexte et dans la langue, surtout.
Absolument.
En celle, donc, ces dialogues portés quand même par des acteurs exceptionnels et signés Régent Ducharme. Mon invité, Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma à Radio-Canada. Merci beaucoup, Hélène.
Merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.